France Inter,
RFI, Radio France Internationale,
RTBF,
Radio Télévision Suisse,
Radio Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone estivale. On continue ce grand voyage avec cette déclinaison de la librairie francophone et avec des auteurs et des artistes. Aujourd'hui, nous irons en Inde grâce à Jean-Claude Carrière et à Shumona Sinha. Nous serons à Bruxelles dans les Galeries Royales avec le chanteur Plastic Bertrand qui vous parlera notamment de sa passion pour Milan. Nous plongerons dans l'univers de Picasso sous le regard d'Enki Bilal qui vient de publier un livre sur sa nuit passée au musée Picasso. Et puis nous partirons en reportage dans les rues de Montréal avec Philippe Besson. Confidences, voyages immobiles, rencontres, reportages et entretiens, on ouvre des portes vers l'ailleurs et on vous emmène un peu partout dans le monde.
La librairie francophone, estivale, Emmanuel Kérad.
Et on commence cette émission avec un message de solidarité au peuple libanais. Nous pensons à toutes les victimes, bien sûr, et aux artistes et auteurs du Liban qui nous sont fidèles depuis la création de la librairie francophone. Nous vous proposerons très bientôt, d'ailleurs, une émission sur l'avenir de ce pays profondément francophone avec des personnalités de la culture libanaise. Nous contribuerons autant que possible de notre côté à cet élan solidaire qui est en train de naître en ce moment même. Sans transition, la confidence légère d'une personnalité jamais racontée dans les médias. Aujourd'hui, c'est Leïla Slimani qui se confie. Et bonjour Leïla Slimani.
Bonjour.
Quelle est votre confidence pour la librairie francophone?
Alors, il y a quelques années, j'étais invitée à un festival qui mettait à l'honneur les auteurs maghrébins. Et il y avait une jeune journaliste, je pense stagiaire, qui n'avait vraiment pas beaucoup d'expérience, qui a commencé à m'interviewer. Et les questions qu'elle me posait étaient vraiment très, très étranges. Et j'ai fini par lui demander de quel livre exactement il s'agissait et qui elle pensait que j'étais. Et elle me prenait pour Yasmina Kadra. Donc, elle m'a posé énormément de questions sur l'Algérie, mon passé de militaire. Et puis, elle avait elle-même l'air de trouver ça très étrange, à transpirer à grosses gouttes et c'était assez drôle et je l'ai revue il n'y a pas très longtemps et elle commence à devenir une journaliste un peu plus assurée. À chaque fois qu'elle me voit, elle est morte de rire.
Quelle a été votre réaction? Comment ça se passe? Parce que c'est vrai que ça arrive, ça, malheureusement, que des journalistes, heureusement ça ne m'est jamais arrivé, prennent un auteur pour un autre. Et Yasmina Kadra, c'est un homme en plus. Comment vous avez réagi, franchement?
Parfois, ça peut être vraiment très énervant, parce que parfois, on a le sentiment que c'est un peu du dilettantisme et que le journaliste, il n'a pas lu le livre et qu'en fait, il s'en fiche et qu'il fait ça par obligation. Mais dans ce cas, j'ai réagi gentiment et j'ai plutôt ri, parce que j'ai vu que c'était une jeune femme et qu'elle n'avait pas beaucoup d'expérience, qu'elle s'était emmêlé les pinceaux, qu'elle essayait de bien faire. Simplement, elle a sans doute pensé que Yasmina était une femme. Et puis, je ne sais pas pourquoi, elle m'a associée avec ce nom. Et voilà, mais j'ai réagi honnêtement avec beaucoup d'humour.
Vous n'avez jamais fait de gaffe avec un journaliste ou avec un média, prenant l'un pour l'autre?
Ah, moi, je fais tout le temps des gaffes. Je prends toujours les gens pour d'autres personnes. J'oublie tout le temps le nom des gens. Donc, j'ai d'autant plus, si vous voulez, d'indulgence pour les gens qui font cette erreur, parce que moi-même, je la fais tout le temps.
Merci, Leïla.
Merci beaucoup.
Après cette confidence inédite de Leïla Slimani, voici le voyage immobile dans la librairie francophone estivale. Le principe, vous le connaissez, un lieu choisi par une personnalité, un lieu qui lui fait penser à un autre lieu quelque part dans le monde. Et c'est un chanteur belge très populaire qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Plastic Bertrand.
Et bonjour, bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous continuez votre carrière ici en Belgique et un peu partout dans la francophonie.
Oui, c'est pas vraiment. Je suis très fier d'être belge. J'adore vivre à Bruxelles. J'ai toujours gardé un point d'ancrage en Belgique, mais je me sens pas vraiment. Je n'ai pas l'impression de faire la musique belge, quoi. Même si je revendique le fait d'être belge, mais je me sens pas. Il n'y a pas vraiment de racines belges. D'autant plus que mon père était français, faut le dire, et ma mère était ukrainienne.
Ukrainienne. Ouais.
Mais je suis né ici et j'aime la Belgique. J'aime les Belges. J'aime leur humour. J'aime tout ici, mais il n'y a pas ce côté vraiment belgo-belge. Non, je préfère être international, évidemment.
Bon, on vous connaît tous hein, pour ce fameux tube que je ne citerai même pas, c'est pas la
non,
peine.
Pas la peine, tout le monde connaît.
Ça
le connaît. Oui, mais.
Alors, attendez, parce qu'après plus de 20 millions d'albums. Ouais. Vendus à travers le monde.
Donc, des grandes chansons.
Il n'y a pas qu'une chanson. Voilà. Des grands réalisateurs comme Martin Scorsese qui ont utilisé cette fameuse chanson. Oui, des groupes de rock aussi, Red Hot Chili Peppers, pour ne pas les citer. Et puis, des grandes marques aussi qui ont utilisé Ça plane pour moi. Ouais. Voilà, disons-le.
Il y a d'autres chansons qui ont touché le cinéma américain et hollywoodien. Je pense à Stop ou encore, qui était un tube aux États-Unis et qu'on retrouve aussi dans la bande originale de Three Kings, les Rois du désert, avec George Clooney. C'est George Clooney qui a vraiment voulu cette chanson-là. Donc, ça ne s'imite vraiment pas à cette chanson.
Ça plane pour moi.
vous n'en avez pas marre d'être associé, d'être identifié par rapport à cette chanson ?
Pas trop, parce que finalement, chaque fois que je la chante sur scène, c'est avec des musiciens différents, dans des circonstances différentes, avec un public différent, ce qui fait que j'ai l'impression chaque fois de la réinventer. Et cette chanson est tellement incroyable qu'elle me permet de vraiment beaucoup d'imagination, elle me permet vraiment d'aller un peu à gauche, à droite, d'en faire finalement ce que moi j'ai envie qu'elle soit.
En tout cas, elle fait voyager cette chanson, ça c'est vrai. Et on va voyager avec vous aujourd'hui, Plastic Bertrand. On est dans un lieu historique, représentatif, symbolique de Bruxelles. Où sommes-nous ? Décrivez-nous ce qu'il y a autour de nous.
Alors, on est dans les Galeries Royales Saint-Hubert. C'est une galerie qui a été créée au milieu du 19e. Et c'est un endroit que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, parce que j'y ai passé beaucoup de temps. Il faut dire qu'avant d'être musicien à plein temps, j'ai commencé ma carrière, en fait, ici, exactement, 10 mètres, à la porte qui est juste à côté de cet endroit où on se trouve dans les galeries du Prince, j'étais régisseur de théâtre. Et j'avais même pas 20 ans, quoi. En fait, j'ai appris beaucoup de choses ici, peut-être plus qu'au conservatoire. Cette galerie, imaginée pour y mettre des commerces un peu cossus, un peu chic, pour qu'on puisse se balader, un endroit très, très, très élégant. Et puis bon, se balader, il y a vraiment des très, très beaux magasins. Je trouve que la lumière de cette galerie, parce qu'il faut dire que toute la galerie, bien sûr, est recouverte par une verrière absolument magique qui donne un éclairage cinéma. C'est pas le soleil qui cogne comme ça, même en cas de très beau temps, il y a toujours une espèce de lumière diaphane extraordinaire.
Alors vous êtes dans un fauteuil jaune vif, parce qu'on est dans un bar à champagne. Ouais. Dans cette galerie, il y a une toute petite terrasse avec des fauteuils jaunes. Il n'y a pas que la bière en Belgique.
Non,
ce lieu vous fait penser à un autre lieu quelque part dans le monde. Alors imaginons qu'on va dans ce lieu-là, déjà lequel, Plastic Bertrand ? Faites-nous rêver là.
Alors, là on est à Bruxelles et puis on va redescendre dans le sud. Un endroit où j'ai vécu pendant 3 ans, c'est Milan. Alors Milan, ça me fait penser complètement à cette ambiance de galerie, parce qu'il y a vraiment la célèbre galerie à Milan, Victor Emmanuel II. Oui, on retrouve cette verrière, ces magasins très élégants. Et je retrouve les trois éléments, cette galerie, le dôme, ici on est le dôme de Milan évidemment. Ici on est à côté de la cathédrale Gudule et Saint-Michel. Donc il y a la cathédrale, le dôme, et à quelques pas d'ici, il y a aussi l'opéra. Évidemment, à Milan, il y a Scala. C'est un espèce de triangle magique où je me suis vraiment retrouvé comme un poisson dans l'eau, parce que j'avais mes repères, quoi.
Des émissions de télévision comme Jackpot ou Destination Noël en France.
Sacré souvenir.
Super cool sur la RTBF. Ouais. Des concerts mémorables au Québec avec de nombreux séjours à Montréal. 9 albums studio, un compte musical aussi avec le groupe ABBA et Daniel Balavoine. De quoi êtes-vous le plus satisfait quand vous regardez un peu en arrière ?
J'ai beaucoup de mal à regarder en arrière. Moi, ce qui m'intéresse, évidemment, c'est le futur.
Là, mais ça, on dit tout ça, Plastic.
Mais je le dis parce que c'est vrai, parce que je ne suis pas quelqu'un nostalgique du tout.
Mais sans nostalgie, on peut être fier d'un truc en particulier.
C'est très compliqué, parce que j'ai l'impression d'avoir rien fait encore. Franchement, ce n'est pas de la fausse modestie. J'ai l'impression d'avoir rien fait et que je suis toujours excité comme au premier jour. J'ai envie d'expérimenter plein d'autres voies, de faire d'autres choses. Si, peut-être les rencontres que j'ai faites. Il faut dire qu'ici, et à sa demande, j'ai passé pratiquement 2 nuits, voire 3 jours de folie totale avec Andy Warhol.
Ah oui, ça devait être beau.
C'est peut-être ces rencontres qui m'ont impressionné, plus que mon parcours à moi.
Ouais.
Quand on me parle de Bowie, qui est mon idole absolue, que j'ai eu la chance de rencontrer, aussi parce que j'ai un album qui est sorti aux États-Unis avec une face, il y avait le célèbre Stoppo encore, et lui sortait la musique du film Cat People. Et j'ai fait une tournée de promo aux États-Unis avec lui. Ça, c'est bien.
Et vous lui avez rendu hommage après, parce que vous avez chanté Gin Ginny, si mes souvenirs sont bons.
Sur la tournée Star 80. Mais ça, c'est important. Peut-être les plus belles choses de ma vie sont les autres.
Je dirais chez moi que ça en vaut la peine. J'ai beaucoup appris là dans votre atmosphère. Pourquoi je suis pas d'ici? Je commençais à m'y faire.
Merci beaucoup, Plastique Bertrand.
Merci, c'est du bonheur.
Merci, vous sortirez votre 10e album studio le 18 septembre. On espère que ce sera possible avec tout ce qui se passe, mais on y croit fort. En deux versions d'ailleurs, en anglais et en français. L'expérience humaine, c'est le titre de l'album et d'un titre que nous écoutons en extrait en ce moment même. Merci beaucoup, Plastique Bertrand.
Et on exclut.
Exclusivité. Bon été à vous, bon mois d'août à Bruxelles.
Merci beaucoup et surtout, hein, restez à Bruxelles, on est tellement bien ici.
Merci. À suivre dans la librairie francophone estivale, un voyage en Inde avec Jean-Claude Carrière et Shumona Sinha. Avant cela, voici le dernier titre de Christine and the Queens. C'était Christine and the Queens avec Je disparais dans tes bras sur France Inter, la RTBF, la RTS, ici Radio-Canada et sur RFI. Et on part en Inde maintenant avec Shumona Sinha et Jean-Claude Carrière.
La librairie francophone estivale. Emmanuel Kérad.
Et bonjour Shumona Sinha.
Bonjour.
Après Assommons les pauvres et Calcutta, deux livres salués par la critique et par le public, vous publiez Apatride aux éditions de l'Olivier. Vous y allez fort, vous décrivez le chaos en France et en Inde, à Calcutta. Nous avons retrouvé d'ailleurs des ambiances de rue de Calcutta que vous entendez en ce moment, à travers le portrait comme ça de trois femmes, dont Esha, qui a quitté Calcutta pour vivre et enseigner à Paris. Vous la décrivez comme étant hors code et donc identifiée comme telle et discriminée.
Oui, d'abord j'avais commencé à écrire sur Mina. Comme vous savez, il y a plusieurs cas de viol en Inde. Et donc j'ai essayé de comprendre et ça m'a paru que ces cas de viol, c'était comme une expression érotique d'un conflit socio-économique.
Donc ça c'est le cas de Mina, l'autre personnage.
Voilà. J'ai commencé à écrire là-dessus et puis il y a eu janvier 2015 et j'étais à Paris évidemment. Ouais. Et donc je n'ai pas pu rester loin à Calcutta dans mon écriture, parler d'une femme qui me tenait toujours à cœur. Et donc j'ai commencé à composer le personnage de Esha et essayer de comprendre encore une fois de qu'est-ce que c'est être femme, qu'est-ce que c'est être femme de couleur, même si l'expression je n'aime pas parce que les autres ne sont pas transparents, mais essayer de comprendre toutes les fractures sociales, politiques, religieuses qui existent, qui peuvent exister dans Paris, dans la région parisienne.
Alors c'est vrai qu'il y a ces portraits de femmes avec à Calcutta aussi une autre forme de violence, un combat à mener pour Mina, qui elle va être sacrifiée pour l'honneur de sa famille, mais aussi pour Marie, qui elle est partie en Inde pour en savoir plus sur ses origines. Elle a été adoptée en France, et quand elle arrive en Inde, elle est frappée également par les injustices sociales.
L'Inde est un pays qui est vaste et complexe et compliqué, comme vous le savez. Et même si ce pays il est considéré comme porteur de la plus grande démocratie du monde, mais cette démocratie, à l'intérieur de la démocratie, il y a le système féodal qui continue à fonctionner. Nous avons eu le premier ministre Indira Gandhi dans les années 80, c'est une femme. Le problème, c'est que souvent les filles d'eux, ou femmes d'eux, ou mère d'eux. C'est-à-dire, c'est vraiment la dynastie familiale qui continue à fonctionner quand on n'a pas de moyens, c'est-à-dire quand on est pauvre, quand on n'a pas d'éducation. C'est dans ces conditions-là, être femme en Inde, ça reste un fardeau, ça reste un combat perpétuel de tous les jours pour s'affirmer en tant que femme.
Donc les injustices sociales, elles ciblent les femmes, elles ciblent aussi les paysans. Il y a toute une histoire avec des paysans que l'on déplace pour construire des entreprises. Voilà, tout cela ressort dans ce roman. On va écouter le son du monde de la semaine, Shomona Sina. Le principe, c'est une musique habillée d'une voix. Une voix qui lit un extrait de votre roman. C'est une surprise pour vous. Celui qui a accepté et que nous avons enregistré en tout début de semaine chez lui, c'est Jean-Claude Carrière, grand spécialiste de l'Inde. Il a même publié un dictionnaire amoureux de l'Inde chez Plomb. Vous connaissez, je suppose.
Je l'admire énormément.
Alors voici sa lecture et son commentaire sur la musique indienne de Baul Bishwa.
En sortant du cybercafé, Marie avait la migraine, comme souvent depuis son arrivée à Calcutta. Là-bas, les voitures, bus, camions, charrettes, pousse-pousse, piétons, colporteurs et mendiants criaient, râlaient, klaxonnaient, sciaient l'air de la ville dans leur course exaspérée, jusqu'à ce que tout s'en mêle en un embouteillage chaotique. Les cris des haut-parleurs secouaient les jours et les nuits jusqu'au fin fond de la campagne. Les prières du temple rivalisaient avec les chansons de Bollywood diffusées par les clubs de jeunes à chaque carrefour pour annoncer les séances de cinéma en plein air ou les meetings des partis politiques. Les militants sillonnaient les rues en pousse-pousse, micro à la main, et distribuaient des tracts. Marie ne comprenait pas que les gens ne puissent communiquer sans crier, qu'ils ne soient pas encore tous devenus sourds, comme si le silence leur faisait peur, qu'ils aient besoin de ce vacarme en permanence, sans doute, pour avoir l'impression d'exister.
Une réaction à ce texte, Jean-Claude Carrière.
C'est une image de Calcutta que je connais bien, que j'apprécie beaucoup. C'est une ville où je suis allé souvent et que j'aime. C'est la capitale intellectuelle de l'Inde. Mais il est vrai que l'image qu'on nous en donne ici est celle d'un chaos. C'est souvent le cas, pas toujours. Calcutta, moi je l'aime parce qu'il y a 10 000 libraires. C'est la ville du monde où on lit le plus. C'est une ville étrange. J'ai assisté à des manifestations de montreurs de serpents venimeux. On parlait de les interdire, ils défilaient dans les rues en brandissant à deux mains leurs gros serpents, leurs gros cobras. On y voit des choses vraiment extraordinaires, comme partout en Inde, bien sûr.
Qu'est-ce qui vous a donné cette envie, cette passion pour l'Inde?
C'est totalement professionnel. Je ne connaissais pas l'Inde avant que nous décidions au début des années 70, avec Peter Brook, d'adapter au théâtre et puis au cinéma et à la télévision le Mahabharata, qui est une des deux grandes épopées indiennes, la plus longue et la plus importante sans doute, l'autre étant le Ramayana. À partir de là, il a fallu d'abord connaître ce poème, et ensuite, comme il contient toute l'Inde, dès que nous avons commencé à aller en Inde, nous nous sommes rendus compte que nous devions connaître l'Inde jusque dans les moindres recoins. La dernière fois, j'y suis allé, il y a 2 ans, j'ai fait le compte, c'était mon 46e séjour. Quelque chose m'y attire, je ne peux pas faire autrement, et je suis sûr que chaque fois, je le dis aux amis qui m'accompagnent ou à ma femme, dans la première demi-heure, nous allons voir quelque chose que nous n'avons jamais vu avant.
Alors c'est grâce à vous, hein, Jean-Claude Carrière, que le public francophone a connu le Mahabharata, en tout cas le grand public, grâce à vous et Peter Brook. Pensez-vous qu'il a un rôle aujourd'hui, un rôle politique, un rôle social aussi ?
Ça, je suis incapable de dire si la littérature sanskrite en général, car c'est un chef-d'œuvre de la littérature sanskrite avec évidemment le Ramayana, joue un rôle social et politique. Tous les connaissent. Est-ce que ça joue un rôle apaisant ou au contraire excitant à la bataille, puisque c'est l'histoire d'une grande guerre quand même, le Mahabharata.
C'est violent hein, par moment
oui,
d'ailleurs.
Très
érotique, violent.
Il y a tout ça, oui. Il y a tout. Le grand problème qui se pose à beaucoup de communautés indiennes, musulmanes, chrétiennes par exemple, est de savoir s'ils doivent se convertir ou non. S'il faut rejoindre le pouvoir, ou au contraire continuer à subir, sorte de discrimination qui existe quand même. Quelqu'un que j'ai vu, un chiffonnier, vous savez, quelqu'un qui ramasse des bouts de chiffon par terre avec une pique, pauvre parmi les pauvres, hein, a dit à un journaliste qui l'a interrogé, on est venu nous demander si nous étions hindouistes, on est venu nous demander si nous étions chrétiens, on est venu nous demander si nous étions musulmans, personne ne nous a demandé si nous avions faim.
Jean-Claude Carrière, très intéressé par votre roman Shumona Sina. Son dernier essai d'ailleurs sur la paix est paru récemment chez Odile Jacob. Les codes en Inde sont régis par le mélange des traditions, par le mélange des religions, hein, il en parlait. Ce vacarme pour avoir l'impression d'exister, comme vous l'écrivez, c'est aussi une façon de noyer les différences.
Toutes ces discriminations économiques, sociales, religieuses, elle existe terriblement en Inde, partout. Et justement, ce qu'il a dit, très justement, Jean-Claude Carrière, c'est que Ramayana et le Mahabharata, ce sont des grandes épopées qui ont vraiment incité la haine communautariste chez les hindouistes fanatiques à l'égard des musulmans.
Ah, qui ont incité la haine, oui.
Et même, les plusieurs émeutes communautaristes ont eu lieu en Inde, en 1947, au moment de la partition en Inde, évidemment, mais après, en 1992-2005, notre premier ministre, chef d'État indien, Narendra Modi, il est élu de BJP, mais il était aussi membre militant de RSS, faction coalition de BJP qui est actuellement au pouvoir en Inde, et bien un militant de RSS avait assassiné Mahatma Gandhi.
Oui, c'est ça. Donc il est très controversé d'ailleurs, hein, Modi, le premier ministre indien.
Il est extrêmement controversé, vous le savez.
Responsable, selon beaucoup, hein, du génocide musulman.
Exactement.
Pourtant, il est au pouvoir.
Et puis, il est pourtant au pouvoir. Donc, l'Inde, qui a jusqu'ici, le peuple indien a élu le parti Congressai, qui est le parti de droite centriste. Et aujourd'hui, maintenant, depuis quelques années, c'est le parti de Narendra Modi qui l'ont élu. Donc, il y a, je pense que partout, à peu près partout dans le monde, le peuple a une mémoire assez courte.
Merci beaucoup, Shumona Sina. Votre roman Apatride est paru aux éditions de L'Olivier. Un roman qui ne peut pas laisser indifférent et qui inquiète vraiment, hein, sur cette humanité déréglée. Et c'est l'heure du club francophone.
Radio-Télévision Suisse, RTBF,
Radio-Canada, France Inter,
RFI, Radio France Internationale.
La librairie francophone estivale. Emmanuel Guérad.
Et c'est le club francophone d'Enki Bilal qui invite Philippe Dagen aujourd'hui. Un livre est paru cet été dans la collection Ma nuit au musée aux éditions Stock. Bonjour Enki Bilal.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Très bien, et vous ?
Ça va, écoutez. Vous publiez Nuit avec Picasso. Vous avez passé la nuit au musée Picasso et cela vous a, semble-t-il, beaucoup perturbé quand on vous lit.
Ah bon? Je me suis retrouvé assez dans un état relativement normal de confinement, en fin de compte.
Oui.
Je pense que la création, c'est un confinement. Hein, quand on est en création, dans cette phase de création, on est auto-confiné. Non, j'ai répondu à une invitation, une proposition des éditions Stock, de Alina Gourdiel, qui m'a suggéré, m'a dit, voilà, possibilité de passer une nuit dans un musée, le musée Picasso, et d'en faire un objet écrit.
Écrit et dessiné, en ce qui me concerne.
Non, c'était au départ écrit, et moi, pensais le faire que écrit au départ aussi. Je me suis dit, voilà, l'occasion de enfin faire un livre sans dessin, sans mais dessin. Que avec des mots. Et puis finalement, c'est elle qui m'a dit peut-être qu'un dessin par-ci par-là, et comme j'avais choisi une option de compacité, l'écriture très compacte, je me suis servi de ces dessins pour dynamiser le tout.
Ouais,
et finalement, c'est devenu en fait un langage, donc c'était assez jubilatoire à faire.
Ouais.
Après une expérience finalement assez étrange, hein, de passer une nuit dans un musée tout seul, sur un lit de camp, avec un plateau repas au départ.
C'était bon ou pas ?
C'est pas mauvais, mais il y avait que de l'eau à boire, j'étais déçu.
Et pourtant, avec vos délires dans le livre, on se dit que vous avez beaucoup bu d'alcool.
Je n'ai pas dit ce que c'est. Ensuite, ce qui m'est arrivé avec les protagonistes que je croise, ça c'est une autre histoire.
Oui, les fantômes.
Ouais, ils ne sont pas vraiment des fantômes, ils sont là, hein, ils occupent les lieux. Hein.
Vous n'avez rien pris, vous êtes sûr ?
Certain.
Bonjour Philippe Dagen.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous également. Vous êtes critique d'art et romancier, journaliste au journal Le Monde. Vous avez publié la référence en matière de livres sur Picasso. Une monographie parue en 2008 chez Hazan. C'est selon moi, je vous l'ai déjà dit d'ailleurs, le meilleur livre publié sur l'artiste et même l'un des meilleurs livres d'art de ces 20 dernières années. Qu'est-ce qui est perturbant chez Picasso pour vous, Philippe Dagen ?
Qu'est-ce qui n'est pas perturbant chez Picasso, d'après vous ? Tout est perturbant. Le fait que d'une année à l'autre, ou d'un jour à l'autre, il ne soit plus au même endroit de son art, le fait qu'il soit quasiment simultanément en train de dessiner, de sculpter, de modeler, d'associer, d'assembler, de peindre, de faire de la poésie, de prendre des positions politiques, d'avoir également une vie assez abondamment nourrie d'incidents et d'accidents. Tout est perturbant chez Picasso.
Philippe Dagen, Picasso qui disait « L'art n'est jamais chaste ». C'est l'histoire de toute sa vie, ça.
C'est l'histoire de l'art.
Ouais. Ça dépend qui.
Admettons que ce soit l'histoire de l'art des artistes qui nous intéresse.
C'est les artistes qui s'intéressent au corps, à l'humain, c'est-à-dire le corps étant l'un des sujets depuis Lascaux, pratiquement, sauf que c'est des corps d'animaux, mais dès que l'homme dessine, peint, traite le sujet du corps comme par sa vision, c'est de l'art. Voilà, et c'est le centre de l'art. Il me semble
probablement, oui.
Alors, le dehors et le dedans. Cette dualité aussi, incarnée par Picasso. Le dehors, c'est ce que nous percevons dans la société, dans notre époque, tout autour de nous. Le dedans, lui, est plus insaisissable, dites-vous, plus glissant. C'est le domaine de la création. Nous sommes tous, à un moment, confrontés à notre dedans. Et vous, Enki Bilal, un peu comme Picasso, enfin, surtout comme Picasso, vous avez connu ça, vous le connaissez tous les jours, ça.
Je pense que c'est une définition relativement simple. Je pense qu'elle n'est pas du tout, originale. Ce qui est intéressant, c'était de jouer sur les mots dehors, dedans. Je suis propulsé d'un dehors vers un dedans, etc. Et je retourne dans le dehors après avoir quitté ce dedans. Mais en tout cas, je pense que c'est la définition de l'art. On est dans un lieu, contexte social, géopolitique, politique, géographique, et on est imprégné sans le vouloir de ce lieu.
Ouais, ouais.
Et petit à petit, l'environnement, la vie, la vie des hommes, les sociétés, tout ça finit par agir sur nous. Et le dedans, c'est ce qu'on en fait de ça. Alors soit on écrit dessus, soit on le vit simplement, soit on peint, mais si on veut l'exprimer, il faut que ça ressorte.
Mmh.
Et donc là, on est de nouveau confronté on expulse, on recrache.
On recrache. Oui, c'est vrai, vous dites ça. Ouais. On expulse ou on recrache ?
On recrache.
Ouais, carrément.
On se passe des crachats entre artistes, c'est élégant.
En cette période, c'est génial.
Oui.
Philippe Dagen.
C'était avant.
C'était avant, le tel monde d'avant. Philippe Dagen, Picasso a cette façon de nous impliquer dans ses œuvres. La diversité graphique est étendue, que l'on aime ou pas d'ailleurs, on arrive à s'y impliquer. Même avec ses sculptures, Enki Bilal se cogne à l'une d'entre elles d'ailleurs.
Ça, c'est un très bon moment, je dois dire, que l'idée de prendre un coup de point d'une sculpture de Picasso, c'est très juste, parce qu'au fond, c'est pourquoi elles sont faites. Soit nous cogner, soit nous écraser les pieds, soit... Non, il y a un rapport physique à l'œuvre dans lequel on peut se projeter, je crois, très immédiatement.
Mais on a tous un rapport physique à l'œuvre de Picasso, finalement, à l'inverse d'un Giacometti, par exemple, qui met un peu le spectateur à distance. Picasso, il nous implique, il nous concerne, il nous fait réagir.
Je pense que c'est un point de vue qui vous est propre. Je ne sais pas si Giacometti implique plus ou moins le corps du spectateur que de Picasso. Quand vous regardez la pointe à l'œil de Giacometti, il me semble qu'il est difficile de ne pas avoir une petite angoisse d'aveuglement qui est quand même la vôtre. C'est votre œil à vous qui est en cause. Mais il est vrai que dans...
Il met à distance, du coup. Ouais. On s'en écarte.
Il est vrai que dans Picasso, on est quelquefois impliqué physiquement et qu'on est presque toujours impliqué dans la compréhension du processus qui est quand même très complexe. Parce que même si vous racontez d'une manière qui est somme toute assez vraisemblable, si j'ose dire, la jeunesse de Guernica, il est certain que tous ces éléments qui arrivent de ci, de là, qui viennent s'agréger les uns aux autres, et quand même, dont en même temps on a le sentiment qu'ils étaient faits pour se rencontrer, ça reste quand même très complexe à comprendre comment une œuvre pareille peut à un certain moment voir le jour.
Et surtout qu'il y a la taille de l'œuvre, il y a la taille de l'œuvre aussi, qui c'est absolument incroyable. Donc, c'est ingérable quand on le voit face à cette immensité de tableaux, etc., d'escabeaux et tout. Donc le geste, donc il y a beaucoup de collage. C'est un tâtonnement, un travail étrange. Mais en tout cas, les séances de pose, c'est totalement apocryphe. Évidemment, il n'a jamais fait poser qui que ce soit pour les personnages. Mais moi, j'ai posé pour lui. Donc du coup, je sais ce que c'est, la souffrance. Et quand on regarde les corps d'une certaine période Picasso, on a mal.
Vous parlez des musées, Nkibilal. D'une façon générale, d'ailleurs, les musées sont une façon pour nous vivants de nous confronter à l'existence. Aller au musée, même en vacances, ce n'est pas anodin. On en ressort toujours avec au moins une forme de perplexité. C'est ce que vous avez vécu, vous, quand vous sortez, vous êtes vidé.
Oui, mais en même temps, c'est un confort incroyable, c'est d'avoir un musée pour soi seul, de déambuler dans un musée toute une nuit. Lumière tamisée est très important, ça. Je sais pas si la mise en scène avait été voulue ou si tous les soirs on tamise la lumière, mais c'était particulièrement efficace et particulièrement, ça donnait une puissance en plus aux œuvres que je découvrais. Et notamment, je connaissais pas le meurtre, ce dessin très 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 brutal, quoi, à l'encre de Chine, un truc très très violent, archi lisible dans un premier temps, où on finit par comprendre que Marat est dans sa baignoire, que ce couteau gigantesque brandi par Charlotte Corday là. Et ça, c'est des moments qui resteront très très forts. C'est-à-dire que
vous allez garder ça en fait.
Ah oui, parce que en fait, j'ai passé cette nuit, je suis parti à 4h30, 5h du matin, je n'ai pas pu dormir évidemment. L'écriture a commencé un mois et demi après seulement. Ouais. Et ces images-là, dont celle du meurtre, des choses se sont enchaînées ensuite jusqu'à la nuit des longs couteaux de Hitler.
Qu'a-t-on à y faire dans un musée, Philippe Dagen, pour vous?
Ça dépend de qui on est. Je crains que beaucoup de gens n'y aillent que pour vérifier que les œuvres sont bien là et qu'elles ressemblent à leur reproduction et puis à se photographier en selfie devant pour prouver qu'ils y étaient eux-mêmes. Si l'on participe un peu davantage de la vie des œuvres, je pense qu'on va au musée pour se mettre soi-même à l'épreuve. Enfin, c'est les œuvres, je suis vraiment pas le premier à le dire, c'est les œuvres qui vous regardent, c'est elles qui vous mettent en cause et c'est cela qu'on peut espérer.
Bon, allez tous au musée, en tout cas dans ceux qui sont ouverts. J'espère que les vacanciers pourront aller au musée. C'est important parce que c'est aussi un soutien de la culture, d'aller au musée. C'est un acte aussi militant aujourd'hui et il faut soutenir tous les lieux de la culture en ce moment. C'est fondamental. Merci beaucoup Nkibilal.
Merci.
Merci. Manuel. Votre livre illustré par vos dessins nus avec Picasso est paru cet été donc aux éditions Stock. Merci Philippe Dagen pour votre complicité.
Merci
à tous les deux. Cet été vous êtes très occupé Nkibilal avec une grande expo jusqu'à la fin de l'année en Bretagne.
Exactement, à Landerneau, fondation Hélène et Édouard Leclerc. Donc c'est un très beau lieu qui a déjà exposé Picasso d'ailleurs. Donc j'aurai les honneurs de cet endroit et c'est une exposition assez complète sur mes travaux, la bande dessinée bien sûr, mais aussi peinture, cinéma, texte.
Et c'est sublime. Et il y a un catalogue d'expo, vos dessins sont dingues, Enki. Je vous le dis tout le temps, mais c'est vrai que quand on plonge, on se dit c'est incroyable. Vous êtes un artiste magnifique. Voilà. C'est un bel été.
Merci, avec des mots pareils, il va être formidable mon été.
À bientôt, à suivre dans la librairie francophone estivale, une balade à Montréal avec Philippe Besson, ce sera après le titre acoustique de la semaine. Voici Gérald Toto dans les studios de la librairie francophone.
Et si nous les rivets, nous n'y parlons. Attends l'humanité, tout homme c'est homme, tout homme mérite respect. On les la terre nous va.
C'était l'artiste Gérald Toto avec L'été noir dans notre studio sur votre radio francophone. Une nouvelle escale dans la librairie francophone estivale avec un nouveau voyage à Montréal et un écrivain français passionné par cette ville qui a marqué une partie de sa vie.
La librairie francophone estivale. Emmanuel Quérade.
Bonjour Philippe Besson.
Bonjour Emmanuel Quérade.
Où est-on ?
Nous sommes place Jacques-Cartier à Montréal. Voilà, un lieu qui n'est pas forcément beaucoup fréquenté par les Montréalais pur sucre, parce que c'est maintenant plutôt voué au tourisme, mais qui est un lieu quand même que j'aime beaucoup. Voilà, c'est le vieux Montréal, c'est à quelques encablures du fleuve, et où surtout beaucoup de choses ont commencé pour moi. C'est là que j'ai écrit la première phrase du premier livre. Et voilà, septembre 99, à ce moment-là, les hasards de la vie faisaient que j'habitais à Toronto et je suis venu passer quelques jours à Montréal. Et je me suis installé dans un des cafés de la place Jacques-Cartier et j'ai écrit « J'ai 16 ans, je suis né avec le siècle » qui est devenue la première phrase de « En absence des hommes ». Et donc pour moi, c'est le lieu d'un basculement phénoménal, d'une sorte de métamorphose. Je veux dire par là qu'au moment où j'ai écrit la première phrase du premier livre, j'ai compris qu'il se passait quelque chose qui n'était pas du tout anodin et qui allait m'emporter très loin. J'ai pas pensé que c'était une sorte de divertissement ou de diversion. Je me suis dit, je viens changer de vie, vraiment. Et c'était là.
Alors vous avez écrit « Dîner à Montréal », paru chez Julliard. C'est la suite d'un certain Paul Darigrand qui avait eu un énorme succès. Et dans ce livre, vous racontez votre passé, une histoire d'amour de jeunesse avec ce Paul magnifique qui vous a quitté et que vous retrouvez à Montréal un jour, alors que vous êtes en train de signer votre livre dans une librairie.
Oui, c'est ça. Les hasards sont assez curieux. On est en 2007, c'est-à-dire 18 ans après la fin de l'histoire. Je suis à Montréal pour les livres, pour faire la promotion de mes livres. Et puis, se présente devant moi cet homme qui surgit de mon passé. C'est un surgissement totalement inattendu. Je ne sais pas qu'il habite là. Je ne sais encore moins, évidemment, qui va venir. Et je suis un peu décontenancé. Je ne sais pas très bien quoi lui dire, et lui non plus. Et puis, au moment où, finalement, je lui signe le livre, pour que la rencontre peut-être s'achève, parce que je ne sais pas quoi en faire, il me dit « Est-ce que tu m'en as voulu ?»
Oui, c'est ça.
Et je me demande de quoi j'aurais pu lui en vouloir. Est-ce qu'il me parle de la séparation, de la violence et de séparation, du fait que nous sommes peut-être passés l'un et l'autre à côté de nos vies ou pas, j'en sais rien. Et comme j'ai envie de connaître la réponse à cette question, je lui propose que nous allions dîner le soir même. Alors on dit souper à Montréal,
oui, hein. Oui, oui.
Mais comme nous sommes français, nous disons dîner. Et nous nous retrouvons le soir même, effectivement, dans un restaurant de la rue Sainte-Catherine, dans le village, ce qu'on appelle le village. Et là commence quelque chose d'assez surréaliste, parce que ce dîner ne se passe pas à deux, mais à quatre.
Ouais, voilà, il est accompagné.
Voilà.
Et vous aussi.
Oui, lui de sa femme.
Voilà.
Voilà, ce qui est toujours une sorte de chose comme un inconvénient, vous voyez.
C'est-à-dire ça dépend ce qu'on
oui,
veut faire.
Oui, bien sûr. Bah, c'est, d'une manière générale, si j'ai un conseil à donner, c'est quand on tombe amoureux, vaut mieux tomber amoureux de quelqu'un qui a la même sexualité que vous.
Ouais.
Et vaut mieux tomber amoureux de quelqu'un de disponible. Moi, j'avais quand même multiplié les obstacles avec lui. Et 18 ans après, les obstacles demeurent. Et moi, je suis avec mon compagnon de l'époque. Donc, ce dîner se passe à quatre dans ce restaurant. Donc,
avec Antoine.
Antoine, absolument. Et c'est une configuration étrange, mais qui a un avantage, comme au théâtre, parce qu'il y a l'unité de temps, de lieu et d'action, c'est qu'au fond, on ne peut pas échapper au lieu Et on ne peut pas échapper au fait qu'à un moment, la vérité intime devra surgir. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez épuisé les banalités sur la météo, les impôts et les élections, il faut bien parler de soi et de ce qui nous a unis et de ce qui nous a séparés. C'est ça qui se joue à ce moment-là, et le huis clos du restaurant le permet, parce qu'on ne peut pas échapper au lieu, on ne peut pas échapper à la géographie.
Alors, on va longer le fleuve Saint-Laurent, en tout cas le port de Montréal. On a le fleuve Saint-Laurent, là, juste de l'autre côté, avec des hangars, avec des anciens silos. Il y a plein de choses hein, dans ce coin-là de Montréal. Et autour de nous, là, on longe des restaurants. Oui. C'est le vieux Montréal. Il y a plein de restaurants. On imagine très bien dans ces restaurants qu'il se passe des choses en famille, en couple, on se raconte des choses au restaurant. On peut être avec un ami intime et on peut se dévoiler sa vie, on peut dire des choses fondamentales.
J'adore ça, l'idée qu'à un moment vous mettez des gens face à face dans un lieu clos et il finit par se produire quelque chose. Moi j'aime bien regarder les gens assis dans les restaurants, que je sois assis moi-même dans le restaurant à côté d'eux ou que je sois de l'autre côté de la vitre. C'est, vous savez, comme l'aquarium de Balbec chez Proust. C'est-à-dire que tout d'un coup vous vous dites, mais qu'est-ce qui se joue entre ces deux-là qui sont face à face? Est-ce qu'ils sont en train de s'aimer? Est-ce qu'ils sont en train de se séparer? Est-ce qu'ils sont en train de se réconcilier? Est-ce qu'ils sont en train de dénoncer des banalités ou au contraire des vérités profondes? Moi, ça m'intéresse beaucoup l'idée que vous pouvez être seul dans un lieu où il y a plein de monde et tout d'un coup n'existe que duo et ce couple entre les
malgré
entre les gens.
Le fait que parfois on ait des personnes à côté.
Oui, c'est
alors,
ça.
On est gêné au début parce que quand on commence une conversation intime, on se dit bon, on va doucement parce que les autres vont entendre à côté. Et à un moment, on est dans un tel élan qu'on oublie les autres.
Absolument. C'est-à-dire que tout d'un coup, le dehors disparaît, ou en tout cas l'environnement immédiat disparaît, et même à la limite le brouhaha du restaurant, cette espèce de bruit familier, des fourchettes, éventuellement de la musique d'ambiance et du serveur qui fait tomber le verre, c'est qu'à un moment, tout d'un coup, vous êtes concentré sur l'autre en face de vous et vous avez besoin de dénoncer cette intimité.
Voilà, on va tourner à droite, là, Philippe Besson. Il y a la Cité des Sciences, tout illuminée sur ce port. On va remonter dans le vieux Montréal avec cette ambiance de restaurant, cette ambiance touristique, avec des musées aussi, parce que c'est un lieu patrimonial, comme on dit, le vieux Montréal.
J'accepte ce pas qu'il fait vers moi parce que je comprends d'emblée qu'il s'agit d'un amour impossible et les amours impossibles sont des amours irrésistibles. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous savez que ça ne peut pas marcher, mais vous y allez quand même. C'est la fameuse phrase de Truffaut, on comprend qu'on est amoureux quand on commence à agir contre ses propres intérêts. J'avais envie de cette ferveur, de cette fièvre.
Ça aurait pu être une belle histoire d'amitié, puis voilà quoi.
C'est impossible parce qu'à un moment, quand le désir...
On va le mettre de côté, le désir.
Ah mais non. Non, le désir, on ne le met pas de côté, non. Qu'est-ce que vous me racontez? Pas du tout.
Ça se peut, on peut.
Mais non, il ne faut pas. Pourquoi? Non, si vous comprimez le désir, si vous êtes dans une espèce de censure, c'est fini. Il faut au contraire s'abandonner, il faut décider de jouer la partie. Ouais. Donc moi, je préférerais avoir comme ça cette
échouer,
tentative avec lui,
aller dans le mur,
échouer, plutôt que de ne pas l'avoir vécu.
Plutôt que de ne pas essayer.
Oui.
Et alors, vous le revoyez? Vous le voyez encore quand vous venez ici à Montréal?
Non. Non, alors ce qui est amusant, c'est que je ne sais pas s'il a lu les deux livres, même si mon intuition,
c'est qu'il les a lus.
Je ne sais pas ce qu'il en a pensé, même si mon intuition me dit qu'il a dû penser quand même que je lui rendais un bel hommage, parce que c'est ça, moi je ne règle pas des comptes dans les livres. Non, j'essaie de dire, nous avons été heureux, nous avons été amoureux, j'ai aimé beaucoup cet homme-là.
Okay. Mais je ne comprends pas, Philippe, là, parce que vous faites ce dîner-là, vous racontez plein de choses, vous réglez finalement, on ne va pas tout raconter, il est avec sa compagne, il vous présente sa famille finalement. Donc on se dit que bon, il en parle en plus ouvertement. Pourquoi vous avez rompu les liens? Pourquoi a-t-il rompu les liens comme ça,
du coup? Parce que je pense que c'est une façon de dire nous en terminons une bonne fois pour toutes avec l'histoire.
On clôt le sujet.
Oui, je pense que c'est on clôt le sujet. C'est, voilà, on peut passer à autre chose, enfin. Puis on est des grandes personnes, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on est devenu des grandes personnes, alors on peut se parler comme des grandes personnes, et puis après, voilà, c'est fini, passons à autre chose.
Café magnifique, avec une devanture verte, avec du métal, avec énormément de couleurs. c'est un magasin en même temps, c'est très beau, c'est très illuminé, c'est absolument sublime. Vous qui avez sillonné la ville de Paris, Philippe Besson, pour une émission de télévision en France, les nuits à Paris, vous avez dû en voir, vous avez dû en faire, on va passer les détails Philippe, hein, parce que ça doit être terrible.
Pas tant que ça.
Pas tant que ça. Quand vous êtes dans la ville de Montréal, comme ça, quand vous voyez la vie nocturne, qu'est-ce que vous ressentez ?
Mais moi, j'aime bien marcher dans une ville la nuit. Parce que je trouve que ce qui est intéressant, c'est quand l'obscurité arrive et quand les gens se voient un peu moins, qu'on est un peu dans la pénombre, ils se dévoilent un peu plus facilement. Vous savez, quand vous êtes très éclairé, vous avez tendance à vous reculer ou à jouer un rôle. Bon, la nuit vous préserve et vous protège. Donc, vous vous dévoilez un petit peu plus la nuit. Et puis, j'aime bien, justement, ces choses qui continuent d'exister la nuit. La nuit, il y a une vie encore. Donc, il faut aller traquer ce côté vibrant et vivant de la nuit.
Bon, merci beaucoup, Philippe Besson. On arrive devant un magnifique hôtel, Place d'Armes. C'est un endroit sublime parce qu'on est à la croisée des chemins, finalement, avec la ville moderne, downtown, comme on dit, et puis le vieux Montréal, le port qui est derrière, la cathédrale. Absolument majestueuse. Oui. Si vous venez à Montréal un jour, il faut visiter cette cathédrale. Oui. Il y a en plus des salles derrière avec des monuments et avec des sculptures absolument sublimes. Et on est là finalement dans un lieu qui vit et qui respire à la fois l'Amérique et à la fois l'Europe.
Oui, absolument. C'est un bon résumé. C'est un croisement. C'est-à-dire que vous avez une espèce de building. D'ailleurs, là, on est par exemple devant le Place d'Armes.
511.
Je vous explique, le premier gratte-ciel de Montréal, construit en 1888.
Ah oui, dis donc, j'avais
pas vu. Donc, un truc très historique là. Ah, voilà. Mais on est en même temps dans un truc qui ressemble à Manhattan. C'est-à-dire que, voilà. Et pour autant, il y a un esprit très français ou très européen. Parce que la force de Montréal, c'est justement ça. C'est qu'on parle le français, il y a une espèce quand même de convivialité, de douceur, qui sont des choses plus européennes qu'américaines. Donc ce croisement des cultures et des ambiances dans cette ville-là, c'est sans doute ce qui me plaît à moi et ce qui plaît d'ailleurs à beaucoup de Français qui viennent ici. C'est qu'ils ont le sentiment d'être un peu chez eux, tout en étant dans un lieu parfaitement différent du leur.
Merci beaucoup Philippe Besson pour cette balade dans Montréal.
Merci à vous.
À bientôt Philippe.
C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la rédaction, Jean-Philippe Véret de France Inter avec Swann Blanchet et les équipes de la RTBF, de Radio-Canada, de la RTS et de RFI. Cyril Pascal avec Stéphane Boja à la réalisation, Thierry Dupin à la prog musicale. La semaine prochaine, nous irons dans un vivarium avec Jean Tellet, dans le studio privé de Marc Serron, dans le Grand Nord avec Eric Orsena et dans un cimetière à La Réunion, au bord du lagon, pour vous raconter la légende de Citarane. Merci d'avoir écouté la librairie francophone estivale. Bon week-end et bel été à vous.